le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Elle fait partie de ces nouveaux visages de cette campagne européenne. Notre invitée n'est pourtant pas une novice en matière d'engagement. Militante à l'UNEF, le syndicat étudiant, elle part ensuite travailler en Afrique dans le domaine humanitaire, avant de devenir porte-parole d'Oxfam, cette ONG qui lutte contre les paradis fiscaux et les inégalités. Il se dit que toutes les listes de gauche se la sont disputées, mais c'est avec Jean-Luc Mélenchon qu'elle a signé. Elle a donc mis un peu de côté ses entraînements de waterpolo, dont elle est fan, et a plongé dans le grand bain pour défendre le projet européen de la France insoumise. Mais quel projet ? Plan A, plan B, avec un Frexit envisagé ou pas ? À un mois du scrutin européen, pile, elle semble avoir encore un peu de mal à retrouver tous les électeurs de la France insoumise de 2017. Alors la faute à qui ? À ce projet ? À la gauche éparpillée ou à un leader encombrant ? Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous.
Vous
êtes donc tête de liste de la France insoumise pour ce scrutin européen. Ce sera pile poil dans un mois. Nous allons évidemment parler avec vous de ce projet européen, de la campagne que vous menez. Nous allons aussi revenir sur les annonces faites jeudi par le président de la République pour tenter de sortir de la crise démocratique sociale dans laquelle notre pays est plongé depuis plus de 5 mois maintenant. Pour vous interroger, Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Bonjour Cécile.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question, Manon Aubry.
Bonjour Manon
Aubry.
Demain se tiendra un séminaire gouvernemental à Matignon pour mettre en musique, afficher un calendrier des annonces faites par Emmanuel Macron cette semaine. Alors la France insoumise a été très critique, c'est le jeu des postures partisanes. Mais est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire, vous qui avez un passé un peu différent, oui, il y a des bonnes mesures faites par le président de la République et d'ailleurs certaines doivent être mises en place très vite.
Alors, je crois que nous ne sommes pas dans une posture, et c'est important de le dire. Notre analyse, elle se base sur l'écoute attentive des propositions qui ont été faites. Finalement, moi qui travaillais avant dans le secteur associatif, je faisais exactement la même chose. J'analysais les projets de loi et on analysait ce qui était positif ou négatif. Maintenant, l'analyse...
Le positif.
Alors, le positif, on peut trouver à la marge, par exemple, la question sur les femmes seules, pour qu'elles puissent toucher automatiquement
les
pensions alimentaires, même si ça, en réalité, ça existait déjà et il y avait juste un problème de non-recours, mais ça peut être une chose qui peut aider le
mais
recours
aux pensions.
Sur le
champ du social,
pensions.
Par exemple, réindexation des retraites, mais, allègement de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes.
Réindexation sur les retraites, vous voyez, typiquement, ce que fait le gouvernement, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il défait quelque chose et puis il va le refaire, il va le présenter comme une super avancée.
Mais vous pourriez ce matin dire,
mais il va le présenter comme une super avancée. Vous voyez, il y a un manque de cohérence dans l'action politique du gouvernement. Et j'insiste, nous, notre analyse, elle se fait sur la base de ce qui est proposé.
Et ça peut montrer juste, pardonnez-moi, qu'il a entendu le message porté par les Gilets jaunes et par les Français en général.
Mais qu'est-ce que portait le message des Gilets jaunes ? En matière fiscale, il portait le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ça, il l'avait évacué
dès le départ. Et la fin de la flat tax. Ben oui, mais il continue à le porter, les Gilets jaunes. Est-ce que Emmanuel Macron y a répondu ? Non. En matière démocratique, il portait un référendum d'initiative citoyenne. Est-ce qu'Emmanuel Macron y a répondu ? Non.
On va y revenir, mais quand même, la réindexation, des retraites sur l'inflation, il a corrigé au minimum un certain nombre de mesures qu'il avait prises. Est-ce que vous
savez,
c'est déjà
sur
ça ?
La réindexation des retraites, si on s'arrête là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait été autorisée par le Conseil constitutionnel pour l'année 2019. Elle avait été refusée pour l'année 2020. Il ne fait ni plus ni moins qu'appliquer la décision du Conseil constitutionnel qu'il présente comme une victoire politique. En plus de cela, est-ce qu'il rend ce qui a été perdu pour les retraités sur l'année 2019 ? Non, il aurait pu faire un geste en disant « je me suis trompé, il ne fallait pas désindexer, donc je rends cet argent » que j'ai pris aux retraités.
Il va y avoir un geste sur la CSG, puisqu'il va leur rendre
là,
de l'argent
là, c'est
aux
pareil,
retraités.
C'est de l'argent qu'il leur a pris. Et donc, c'est important de l'avoir en tête. Quand on regarde ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il rend quelques cacahuètes, alors que, dans le même temps, il l'a pris avant des choses beaucoup plus importantes. Et donc, certes, il montre qu'il s'est trompé sur un certain nombre de choses, mais il ne va pas jusqu'au bout
dans son projet. Et ça, c'est votre terminologie.
Bah, l'humain d'abord, oui, ça a été un des slogans du Front de Gauche bien avant que j'y sois. Mais qu'est-ce qu'il y a d'humain en réalité quand Emmanuel Macron ne répond pas aux demandes de dignité ? Parce qu'en effet, la mobilisation sociale, c'est une mobilisation où je crois qu'il y a une grande part d'humanité, une grande part d'appel à la dignité. Et je pense aussi à tous ces gens-là qui ont pu participer de bonne foi au grand débat, qui ont pu faire des contributions. D'ailleurs, lesquelles contributions n'ont pas forcément été lues, parce qu'un certain nombre d'entre elles n'ont pas été lues, et qui aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans les premiers sondages qui sont sortis, peuvent légitimement être déçus parce que leurs aspirations n'ont pas été écoutées.
En tout d'ailleurs, cas, sur le financement, mais il va chercher dans les niches fiscales des entreprises et ça, c'était quelque chose.
Alors,
que
sur la question des niches fiscales, là aussi, il y a un problème de cohérence. Je connais bien le sujet parce que nous, on avait proposé au gouvernement des amendements à l'époque où je travaillais à Oxfam, au moment de l'examen du budget. Et au moment de l'examen du budget, sachant que les niches fiscales ont été multipliées par 2 en 10 ans, on avait demandé au gouvernement à ce qu'il y ait une évaluation avec des critères précis qui se traduisent par une coupe de certaines niches fiscales. On peut évaluer, certaines peuvent être utiles. Mais ce qui s'est passé, par exemple, sur le CICE, ça a officiellement été évalué. Que dit l'évaluation ? Que ça coûte très cher et que ça crée très peu d'emplois.
C'est une piste de le resserrer sur les PME.
Mais là aussi, il y a eu une évaluation. Le moment où ça a été proposé, le gouvernement a dit non. Et puis, j'insiste sur un truc. Quand on écoute Emmanuel Macron au début de son allocution, il a dit, alors je ne sais plus ses termes exacts, oui, c'est « les transformations en cours ne doivent pas être arrêtées parce qu'elles sont justes ». Donc, ce qu'il a fait, c'est justifier la politique qu'il mène depuis 2 ans, une politique en faveur des plus riches, qui se défend, c'est une vision politique des choses. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est la sienne. Et donc, il reste aujourd'hui dans cette droite ligne, sans changer de cap.
Il corrige certaines choses, mais vous ne voulez pas admettre que certaines choses vont dans votre sens.
Mais je vous le redis, on va les prendre dans le détail, parce que c'est bien, là, on a l'occasion d'avoir une émission, on peut parler longtemps. Si ce qu'il corrige, c'est la question de la désindexation des retraites, je vous dis, il ne fait ni plus ni moins qu'appliquer une décision du Conseil constitutionnel. C'est une bonne chose de réindexer. Mais
un moratoire sur les fermetures d'écoles.
Mais pareil, un moratoire sur les fermetures d'écoles. D'abord, quand on sait qu'une école a fermé tous les jours en moyenne ces dernières années, que la moitié des maternités a fermé en 20 ans. Déjà, ça ne corrige pas ce qui a été fermé. Ensuite, un moratoire.
Ça met un coup d'arrêt à un moment donné. C'est un premier pas.
Ça met un coup d'arrêt quand une personne, par exemple, a perdu son enfant à l'hôpital de Die parce qu'il n'a plus de maternité. À cette personne-là, à cette femme et à cette famille, vous n'allez pas leur rendre leurs enfants, son enfant qu'elle a perdu. Et donc, déjà, si on met un coup d'arrêt alors qu'on a appauvri notre système de services publics, ce n'est pas suffisant. Et puis, un moratoire comment ? Parce qu'il ne dit pas clairement ce qu'il fait de la suppression de ces 120 000 postes de fonctionnaires.
Il a décidé.
Comment ? Bah, potentiellement de revenir dessus sans être très clair quand la question lui a été posée par les journalistes. Et donc la question qui se pose véritablement, c'est comment enseigner, comment soigner si on supprime des postes de fonctionnaires. Et il y a une grande mobilisation en ce moment dans les urgences, on en parle assez peu, une grande mobilisation du personnel hospitalier qui dénonce le choix qu'ils ont à faire entre deux urgences vitales à cause du manque de personnel. Et donc si les maires s'y opposent et qu'il n'y a pas de professionnels, d'enseignants ou de médecins, comment on va faire ces moratoires ?
Il dit qu'il va remettre des fonctionnaires sur le terrain en proximité.
Mais avec une suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, avec la baisse de la dépense publique. On va parler sûrement, je pense, de l'impôt sur le revenu. Après, il a annoncé 5 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu. On peut y revenir sur, finalement, qui ça touche véritablement. Mais ça va être financé aussi derrière. Financé par une baisse
de...
Non, il a dit aussi par une baisse des dépenses publiques. Donc,
un mot sur la fraude fiscale, pardonnez-moi, parce que ça a été un de vos grands combats, ça l'est toujours, mais en tant que, lorsque vous travaillez pour Oxfam, il a annoncé qu'il chargeait la Cour des comptes d'évaluer cette fraude fiscale. Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui à cette institution pour porter cette évaluation ?
Mais vous savez, la question, c'est pas l'évaluation en matière de fraude fiscale, c'est comme en matière écologique, on nous fait un conseil, pardon, on nous fait un conseil, une commission. Et donc, c'est comme si...
Sauf qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres. Vous en avancez certains, effectivement. Une évaluation de la Cour des comptes, pourquoi pas ?
Mais aujourd'hui, qui peut contester qu'il y a des milliards d'euros qui sont perdus chaque année à cause de la fraude ?
Oui, mais entre 10 et 60 milliards, on ne sait pas.
Mais à la rigueur, même s'il n'y avait que 10,
ces 10, il faudrait les récupérer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on perd du temps à se faire un énième conseil pour évaluer, pour repenser?
Il y a déjà des actions qui sont mises en place par l'exécutif, au niveau européen aussi.
Parlons de ces actions. La dernière loi fraude fiscale, je l'ai suivie de près, la loi fraude fiscale qui a été examinée à l'automne dernier par le gouvernement. Dans cette loi fraude fiscale, par exemple, nous, les associations, nous avions proposé une liste de paradis fiscaux qui soit crédible. Parce que ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'ils ont pris la liste européenne de paradis fiscaux, ils ont fait un copier-coller. Et cette liste, elle est ridicule. Il y a 15 pays dont l'île d'Aruba, les îles Samoa. Je mets au défi quiconque qui nous regarde de trouver un scandale d'évasion fiscale qui implique ces pays. Il y avait même la Mongolie. Dans la liste française, il y a le Botswana. Mais il y a aucun paradis fiscal notoire.
Pas de Jersey, par exemple,
pas de Guernesey sur la liste grise. Pas de Jersey, pas de Guernesey, pas d'île Caïman et aucun, encore moins, aucun paradis fiscal européen comme l'Irlande, comme le Luxembourg. Donc vous voyez, en matière fiscale comme en matière écologique, on fait un énième conseil. Et puis, comme disait Clémenceau, pour cacher l'action politique, on crée une commission. Et donc, c'est ce que fait le gouvernement, alors qu'on connaît les solutions, qu'il suffit d'avoir de la volonté politique et que le gouvernement s'y refuse.
En matière écologique, justement, une question de Damien Fleurot.
Oui, une nouvelle méthode, peut-être, pour avancer sur ce sujet-là, la transition écologique. Son avenir serait entre les mains de 150 Français qui vont être tirés au sort et qui formuleront d'ici cet été des propositions. Finalement, dépasser les clivages partisans, c'est plutôt une bonne chose.
Mais là aussi, alors deux choses. D'abord, on va tirer 150 personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on va un peu tirer les 150 survivants qui vont résister au changement climatique. Peut-être qu'au moins ceux-là vont accepter plus facilement d'y participer que ceux qui ont été tirés au sort pour participer au grand débat.
La parole citoyenne, c'est quand même votre engagement.
Évidemment, mais la parole citoyenne, les associations qui sont mobilisées sur les questions climatiques, celles qui ont mené une action de désobéissance civile à la Défense il y a quelques jours, elles disent quoi ? Que les solutions, on les connaît et qu'il faut un changement radical de cap. Que l'écologie n'est pas compatible avec l'économie de marché telle qu'on la connaît.
Eh bien, les citoyens vont peut-être proposer cela.
Mais ils le proposent depuis des années. Et que fait le gouvernement en attendant ? Il signe des accords de libre-échange. Ils ne respectent pas leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable. Ils privatisent le rail et le fret.
Après, ce sera difficile à Emmanuel Macron de ne pas suivre ce qu'il va sortir de ce conseil.
Je vous donne des exemples concrets pour que... on se dise pas, la France insoumise, ils sont dogmatiques, etc. Concrètement, un autre exemple, ils ont privatisé le fret entre Perpignan et Rungis. Entre Perpignan et Rungis, à cause de la libéralisation du fret, c'est 80 camions en plus par jour sur les routes de France et qui polluent. Voilà le bilan de l'action du gouvernement en matière climatique.
Manon Aubry, tête de liste pour la France insoumise, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On va parler avec elle dans quelques instants de son projet européen, plan A, plan B. Plan B, elle va tout nous expliquer. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Manon Aubry, tête de liste pour la France Insoumise, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On parle du projet européen que vous allez porter, que vous portez dans cette campagne. Une question de Cécile Cornudet.
Oui, Manon Aubry, il va falloir que vous nous expliquiez un peu sur l'Europe. Au départ, Jean-Luc Mélenchon disait « L'Europe, on la change ou on la quitte ». Mais ça faisait sans doute peur aux électeurs. Maintenant, vous dites « Soit on renégocie, soit on désobéit ». Mais sincèrement, c'est quoi la différence ? Si vous désobéissez des traités, ben de fait, vous sortez.
Alors, je vous explique. On va prendre le temps d'expliquer. Et j'espère que tout le monde ressortira hyper clair à la suite de cette émission. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par traité européen et en quoi ils sont problématiques. Parce que notre opposition au traité européen, elle n'est pas dogmatique. Nous ne sommes pas opposés à la coopération entre les peuples. Sinon, on dirait Frexit, ce serait très simple. Mais nous sommes en faveur d'une coopération qui soit sur d'autres bases parce que ces traités européens sont problématiques. Ils empêchent d'investir massivement dans la transition écologique à cause de la règle du déficit de 3%. Ils empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Ils empêchent de protéger nos services publics en les mettant en concurrence. Ils empêchent de faire du protectionnisme solidaire en plaçant le libre-échange dans l'ADN même des traités.
Ils empêchent parce qu'ils ont été acceptés à l'unanimité.
Alors, ces traités-là, nous, on les a refusés en France. Le vote en 2005, le vote sur le traité constitutionnel européen, 55% de non en France, qui a été compris
comme un oui par les gouvernants. Vous voyez, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de démocratie sur l'issue du grand débat. Si c'est ça leur vision de la souveraineté populaire, on ne respecte pas le vote des citoyens. Et nous, nous sommes un peu les héritiers de ce non en 2005, de ceux qui sont en faveur d'une coopération européenne, mais pas sur une base de concurrence, de libre-échange.
Avec quels alliés, justement, parce que pour renégocier ces traités, pour les amender, il faut avoir des partenaires.
Nous faisons partie d'une coalition qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec Podemos en Espagne. D'ailleurs, il y a les élections en Espagne qui se tiennent aujourd'hui. Là aussi, il faut créer cette force-là. Donc on essaie de la créer au niveau européen, avec nos alliés en Espagne, avec le bloc de gauche au Portugal, avec l'Alliance Rouge-Verte au Danemark, avec le parti de gauche en Finlande et en Suède. Et nous sommes profondément internationalistes, mais nous portons cette vision alternative. Donc pour finir de répondre à notre vision de l'Europe. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic de ces traités européens qui sont problématiques. Je constate d'ailleurs que de plus en plus de monde disent que les traités européens sont problématiques, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche pour savoir comment on fait pour sortir de ce blocage.
Mais parce qu'on ne comprend pas le bout de la démarche.
Alors le bout de la démarche, c'est dire, voici la liste des sujets et des éléments des traités qui sont problématiques. Maintenant, nous voulons lever ces freins et ces obstacles. Donc soit nous renégocions collectivement ces traités pour avoir de nouveaux traités européens qui placent le protectionnisme solidaire, l'harmonisation sociale et fiscale, la transition écologique à son cœur, soit nous allons voir la Commission européenne et l'Allemagne qui jouent un rôle majeur dans les négociations européennes en leur disant « voici l'ensemble des dispositions que nous n'appliquerons pas ». Parce que si, et ça, c'est important
mais
à le dire...
Mais nous, gouvernement français
c'est important à le dire. Tout ça, c'est dans une hypothèse où, évidemment, nous avons le pouvoir en France. Cette
vision
donc il
faut d'abord voter pour vous aux élections européennes et ensuite pour le candidat de la France insoumise en 2022 pour être sûr que votre projet aille au bout.
C'est bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne ment pas aux Français. Non, un député européen ne peut pas changer les traités européens. En revanche, le pouvoir exécutif en France, fort de son poids économique dans l'Union européenne, 16% de l'économie européenne, 18% pardon, de l'économie européenne qui est la France, 16 milliards d'euros de contribution au budget de l'Union européenne. Et si nous arrivions au pouvoir, nous serions élus sur la base d'un programme que nous appliquerions parce que c'est celui que nous défendrions.
Et que vous appliquerez si vous êtes effectivement en 2022 en possibilité de l'appliquer.
Évidemment. Et donc, pour aller jusqu'au bout de la démarche, c'est ça que nous ferions. Et ça n'a jamais été tenté. Ça n'a jamais été tenté parce qu'il y a une forme, de repli ou de renoncement.
Manon Brière, on comprend bien le rapport de force que vous souhaitez instituer.
Et donc, votre question, j'imagine, c'est sur le rôle des députés européens dans tout ça.
Le rôle des députés européens, mais aussi, une fois que vous avez institué ce rapport de force, qu'est-ce qui se passe si, malgré tout, ça ne fonctionne pas ? On va demander à la France de sortir parce qu'elle ne respecte pas ces traités.
Je vous invite à aller regarder les traités européens. Est-ce qu'il y a un article de ces fameux traités européens qui prévoit l'exclusion d'un pays de l'Union européenne ? La réponse est non. La réponse est non, je vous le dis d'autant plus que avant d'accepter cette position pour la France insoumise, ça a été un long temps de réflexion et j'ai fait un truc que pas grand monde n'a dû faire, c'est-à-dire que j'ai relu les traités européens dans leur ensemble et c'est assez instructif parce qu'on voit à quel point le dogme néolibéral est inscrit même dans les traités européens et il n'y a pas d'article qui prévoit l'exclusion. Je veux vous le dire, la Hongrie viole allègrement la liberté de la presse.
Peut-être pas l'exclusion, mais au moins des sanctions. On pourrait avoir des sanctions
là aussi,
fortes sur qui pèseraient
sur les sanctions,
sur la France.
On a des outils face à ces sanctions. Je vous le disais, la France contribue au budget de l'Union européenne à hauteur de 16 milliards d'euros par an. Eh bien oui, nous assumerions d'utiliser cela comme un outil, non pas parce qu'on est plus fort ou qu'on pense qu'on a raison, mais parce que nous aurions été élus sur cette base et c'est pour porter un projet de transformation sociale, de transformation écologique de la société qui n'est pas compatible avec les traités européens actuels. Quand on doit investir des dizaines de milliards d'euros pour atteindre le 100% d'énergie renouvelable, ce serait mentir que de dire que c'est compatible avec les 3% de déficit, par exemple, ou ce serait mentir que de dire que ce serait compatible avec les traités de libre-échange qui sont signés à tour de bras par l'Union européenne.
Cécile Cornudet.
Justement, votre projet, c'est l'écologie et le social, mais c'est aussi ce que défendent toutes les listes de gauche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous défendez que eux oublient, au fond ?
Eh bien, c'est justement cela. C'est sur la question des traités européens. Parce que nous portons l'ambition écologique au-dessus de toute autre ambition.
Oui, mais demain, il faut que ça change demain. Il ne faut pas attendre que vous soyez au pouvoir.
Il faut que ça change au plus vite. Et donc, concrètement, sur ces enjeux au Parlement européen, nous serions contre le glyphosate et l'ensemble des pesticides.
Comme les autres partis de gauche.
Alors, les autres partis de gauche, il y a aussi la question de la libéralisation des services publics. Le Parti socialiste a voté, par exemple, la libéralisation du rail. Le Parti socialiste et son candidat à la Commission européenne, Frans Timmermans, est en faveur des traités de libre-échange qui organisent le grand déménagement du monde en faisant venir de l'autre bout de la planète des marchandises qui sont produites et disponibles ici.
Et quand Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique PS, propose un impôt européen pour financer la transition écologique,
c'est ce matin dévoilé une partie de son programme.
Je vous redis que ce ne sont pas des gens conséquents et pragmatiques. Je vous le dis d'autant plus que la question de l'impôt, je la connais bien.
Donc vous rejetez
ce n'est pas
de
faisable. Non, mais ce n'est pas faisable dans la question des traités européens actuels. C'est tout. Point barre. Ce n'est pas faisable. Parce qu'il faut l'ensemble des États membres qui sont d'accord et qui doivent approuver un tel impôt. Est-ce que vous pensez vraiment...
Mais c'est pareil, là, ils essaient d'instituer un rapport de force.
Ou le Luxembourg... Mais non ! Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'Irlande ou le Luxembourg qui vont accepter cet impôt ? Non ! Non, et que y a une forme d'hypocrisie de la part du Parti socialiste qui, quand il a fallu lutter contre l'évasion fiscale, qui, quand il a fallu appliquer notamment la transparence des entreprises multinationales au niveau européen, certains députés, notamment français, étaient mobilisés, mais les socialistes des autres pays n'étaient pas mobilisés.
Manon Brier, vous vous prononcez pour un SMIC pour tous les pays européens. Actuellement, 6 n'en dispose pas encore. Vous vous dites 75% du salaire médian. Pas tout à fait ce que dit non plus Raphaël Glucksmann. Lui, il dit 65%. Mais est-ce que, là aussi, vous pourriez quand même travailler avec lui pour tenter de faire pression et pousser vers cette voie ?
Alors, plusieurs choses. Pour être en faveur de la hausse du SMIC, encore faut-il déjà l'augmenter dans son propre pays. Et quand le Parti socialiste était au pouvoir...
Il ne l'est plus.
Mais quand il était au pouvoir, je juge leurs actes, ce n'était pas leur priorité d'augmenter le SMIC. Ensuite, à l'échelon européen, je vous le dis de nouveau, on a une question majeure, c'est celle des traités européens. Et donc, s'ils sont en faveur de la hausse du SMIC, s'ils sont prêts à investir massivement dans la transition écologique, s'ils veulent faire l'harmonisation fiscale, mais qu'ils aillent au bout de la démarche et qu'ils remettent en cause les traités européens actuels. Aujourd'hui, nous sommes la seule force de gauche, la seule force qui assume de remettre en question ces traités européens et qui va au bout de la démarche. Sinon, vous savez, moi j'ai 29 ans et j'ai entendu parler de l'Europe sociale depuis que je suis toute petite. L'Europe sociale par-ci, l'Europe sociale par-là. Et qu'est-ce qu'on a fait ces 29 dernières années ? Est-ce qu'on a réussi à faire un SMIC européen ? Est-ce qu'on a réussi à faire l'harmonisation fiscale ? Non, c'est pire. Au rythme où on va, les grandes entreprises ne paieront
c'est
plus
pas pire.
Un seul euro d'impôt en 2050.
Il y a un certain nombre de pays qui, de fait, ont obtenu un SMIC.
Mais sur les questions fiscales, c'est pire. Je vous le dis, c'est pire. Parce qu'en 2050, les entreprises, au rythme où on va, ne paieront plus un euro d'impôt. Parce que l'Irlande vient de baisser son taux d'imposition à 12, la Hongrie a répondu en baissant à 9, la France baisse aussi. Il y a une forme de course à la concurrence fiscale.
Mais le Portugal,
et au final,
vous avez
c'est
cité
nous
le Portugal,
qui et en
vous
payons
le prix.
Le
Portugal, il est à un peu plus de 650 euros, le SMIC européen. Vous imaginez la différence.
Alors, nous, ce que nous disons sur la question du SMIC européen, c'est 75% du salaire médian du pays avec des critères de convergence. Donc, concrètement, on fait des groupes de pays, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, et on essaie de faire converger, mais attention, par le haut. Parce que là aussi, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne ces dernières années ? Elle a fait le travail détaché. Et le travail détaché, c'est tout l'inverse de l'harmonisation sociale. C'est l'harmonisation sociale par le bas. Des entreprises en France peuvent embaucher n'importe qui, y compris vous, hein, des Français, et payer des cotisations sociales dans un autre pays de l'Union européenne. Donc concrètement, l'entreprise va aller faire son marché, va aller voir quel pays lui offre les cotisations sociales les plus basses. Et ça tire la protection sociale de tout le monde vers le bas. Cette directive, il faut y mettre fin. C'est aussi un de nos grands combats que l'on mènera au Parlement européen, ce qui permet de répondre aussi à votre question sur l'importance de députés comme nous au Parlement européen, d'autant plus qu'on a une des meilleures spécialistes sur notre liste en position éligible, Marina Mesure, qui est une spécialiste syndicale de la question du travail détaché.
Manon Aubry, une réduction de l'espace Schengen qui ne marche plus, a dit Emmanuel Macron jeudi lors de sa conférence de presse. Est-ce que vous souscrivez ? Quel pays, selon vous, s'agirait-il d'exclure ?
Je crois que c'est un faux débat sur la question de l'espace Schengen. Nous sommes en faveur de la libre circulation des hommes. Mais pour qu'il y ait une libre circulation des hommes qui ne nuise pas à l'ensemble des travailleurs européens, il faut aussi une équité des droits. Et je vous le disais, la question du travail détaché est centrale. On ne peut pas avoir une libre circulation des hommes et avoir une concurrence par le bas en matière de protection sociale. Et donc, si l'on veut que l'espace Schengen fonctionne bien, entre guillemets,
il faudra mettre un terme à cette directive sur le travail détaché, celle dont se vante aujourd'hui le gouvernement comme une grande avancée alors que c'est une grande régression.
Sur l'accueil des réfugiés, est-ce que vous êtes totalement raccord avec tous les membres de la France Insoumise ? On a vu qu'il y avait eu des tiraillements ces derniers mois. Ça vous fait déjà sourire.
Oui.
Des tiraillements sur ceux qui sont de fait internationalistes, de gauche, la vieille tradition de gauche, et ceux qui sont plus souverainistes et qui plaident assez clairement pour un renforcement des frontières.
Alors, je vais vous dire là aussi, comme ça tout le monde sera clair à la sortie de ce plateau.
Mais c'est
sur
formidable
notre position.
Si tout est clair à la fin de cette émission, bah
ouais,
c'est le but.
C'est super, bah ouais, mais c'est d'ailleurs les rares émissions où on a le temps de développer, donc c'est plutôt une bonne chose. Non, plus sérieusement, sur la question migratoire, nous disons deux choses. Et pour vous rassurer, nous sommes tous d'accord. C'est bien pour ça que nous avons un programme qui est d'ailleurs disponible depuis début décembre, auquel les militants ont contribué, puis qu'ils ont voté, approuvé. Que dit ce programme ? Il dit deux choses. D'abord que migrer est une souffrance. Et il faut le rappeler. Je crois qu'il faut remettre un peu d'humanité dans tout ça, parce qu'il y a des chiffres, des quotas. C'est une souffrance. Moi, j'ai travaillé des années en Afrique, j'ai vu des gens sur les routes d'émigration. Quand on fuit une guerre, quand on fuit le changement climatique, on l'a rarement choisi. En tout cas, on en souffre. Et on traverse les mers, les océans, les déserts, au péril de sa vie. Et ça, il faut le rappeler. Et donc, il faut agir à deux niveaux. Il faut agir sur les causes des migrations forcées, ceux qui n'ont pas choisi de migrer et qui auraient préféré rester chez eux avec leur famille, etc.
Parce mais quand ils arrivent, que fait-on ?
On monte rarement dans un bateau de fortune comme on monte sur un bateau de croisière. Et quand ils arrivent, il faut accueillir avec la plus grande dignité. Je pense que c'est notre humanité la plus élémentaire qui nous l'impose.
On accueille et on garde.
On accueille, bien sûr qu'on accueille, mais il n'y a pas de péril migratoire. On nous fait croire qu'il y a un péril migratoire. Et vous savez, vous pouvez mettre toutes les barricades que vous voulez. Il y a déjà un grand fossé qui s'appelle la mer Méditerranée, dans laquelle sont morts, pas plus tard que la semaine dernière, 700 personnes au large de la Libye. Donc ça ne sert à rien de renforcer encore tout ce que vous voulez, vous allez juste créer plus de morts à vos pieds. Il faut accueillir et en même temps aider à la racine, c'est-à-dire lutter contre le changement climatique, lutter contre les accords économiques inégaux qui maintiennent dans le sous-développement un certain nombre de pays dans le monde entier, notamment dans les pays du Sud.
Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise et l'invité du Grand Rendez-vous. Manon Aubry, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre campagne ? Dans les sondages, je sais que vous les contestez, que vous avez d'ailleurs les vôtres. Mais enfin, dans les sondages, vous êtes encore très loin du score de la présidentielle, du premier tour de Jean-Luc Mélenchon. Il avait obtenu près de 7 millions de voix, 19,5%. Aujourd'hui, vous tournez entre 9 et 10. Pourquoi ?
Qu'est-ce qui marche aussi ? Qu'est-ce qui marche ? Je vais venir au verre à moitié vide. Mais d'abord, faisons le verre à moitié plein. Vous parlez des sondages, on est plutôt à la hausse ces derniers jours dans les sondages. Et puis surtout, je crois qu'on est une des seules formations politiques pendant cette campagne à être capable de mettre dans des salles plus de 1000 personnes pour des meetings. On a lancé un emprunt populaire pour emprunter de l'argent, faute de pouvoir emprunter suffisamment auprès des banques. Et on espérait 1 million d'euros d'ici le 26 mai. Et on a eu 2 millions d'euros en 10 jours, à tel point qu'on a dû fermer parce qu'on n'avait pas le droit d'emprunter davantage. Donc je crois que ce sont
des
bons indicateurs de campagne et que ça vaut beaucoup de sondages. Maintenant, il y a un enjeu. Il y a un vrai enjeu, c'est la question de la mobilisation et de la participation à ces élections. C'est ça qui fait le différentiel entre la campagne de la présidentielle et la campagne actuelle.
Mais c'est vrai pour tous les partis, ça.
C'est particulièrement vrai, je pense, pour les sympathisants de la France Insoumise. D'ailleurs, on le voit aussi dans les sondages. Si vous regardez le comportement des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2017, c'est parmi ces électeurs que l'on trouve le plus grand nombre d'abstentionnistes potentiels dans les sondages actuels. Vous voyez qu'on les regarde quand même, les sondages. Mais toujours est-il que c'est une certitude aujourd'hui. Le vrai enjeu, c'est combien de personnes vont se déplacer le 26 mai pour aller voter. Et donc moi, je veux dire à tous ceux qui hésiteraient à aller voter le 26 mai, tous ceux qui se disent « l'Union européenne, on n'y comprend rien, c'est loin, c'est Bruxelles, à quoi ça sert de se mobiliser, etc. », je vais leur dire au moins deux choses. La première, c'est ne laissez pas Emmanuel Macron remporter le scrutin, parce qu'il serait beaucoup trop heureux.
Ça, c'est le coup du référendum
anti-Macron. Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passerait si Emmanuel Macron sort vainqueur de ce scrutin et se dit « bah c'est parfait ». 2 ans à gouverner le pays, 2 ans de réformes antisociales en faveur des plus riches,
et on en veut encore, ben, je vais continuer. Et il va continuer avec la réforme des retraites juste après les élections, où il va détruire notre système de répartition en matière de retraite. Et le deuxième point, c'est pour tous ceux qui pensent que l'Union européenne, ça ne sert à rien et c'est loin de nous, eh bien, l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Le matin, quand on se lève, quand on mange des céréales, si elles ont été produites avec du glyphosate, c'est une autorisation de l'Union européenne. Le lait que vous mettez avec vos céréales, si le lait vient de Nouvelle-Zélande, de l'autre bout de la planète, et organise ce grand déménagement du monde qui pollue la planète, c'est un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ensuite, vos transports, quand vous rendez au travail, si vous avez accès à un train ou non, c'est ensuite une conséquence de la libéralisation du rail, etc. Je pourrais vous faire
donc
plein d'exemples.
L'Europe, c'est important, il faut voter. Est-ce qu'un de vos problèmes, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon, dont la gestion parfois autocratique de son mouvement a été largement commentée par les gens qui l'entouraient, il y a des gens qui sont partis. Est-ce que ça, finalement, ça ne nuit pas aussi à votre campagne aujourd'hui ?
Alors, je vais revenir quand même sur les accusations de mouvement autocratique. Parce que moi, je découvre la France insoumise. C'est un secret pour personne, je n'étais pas à la France insoumise il y a 3 mois. Et on m'avait...
mise en garde.
On avait des peintres, parce que je suis comme vous, je lis les journaux, j'écoute ce qui se dit. On m'avait parlé d'un mouvement avec un culte du chef, gouverné par l'eau. Franchement, je vais vous dire, c'est tout l'inverse. Mais parfois, c'est tout l'inverse et c'est effrayant à quel point, parfois...
C'est presque trop.
Non, mais parce que c'est un mouvement qui est gouverné par la base. Et donc, il y a...
Est faux autour de ce qu'on dit Jean-Luc Mélenchon.
Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Que mille fleurs s'épanouissent, il y a énormément d'initiatives de terrain que nous-mêmes, on découvre parce que des militants ont pris l'initiative de faire ci ou de faire ça. Et je crois que c'est une des grandes forces de la France insoumise et que c'est une forme nouvelle de militantisme qui n'est pas très bien comprise et connue. Ensuite, moi, je vais vous dire concrètement comment est gérée cette campagne. Je vous parle de ce que je connais. Et cette campagne, eh bien, je suis désolée si ça vous déçoit, mais Jean-Luc Mélenchon ne décide de rien, en fait. On a une réunion hebdomadaire qui pilote la campagne, une réunion qui est faite des 16 premiers candidats. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas partie de ces 16 premiers candidats et qui pilote la campagne. Et donc ensuite, Jean-Luc Mélenchon participe au meeting, nous peut nous donner son avis par ailleurs, mais aujourd'hui, c'est un mouvement, je crois, qui est fort de sa diversité. Quand on voit, je sais pas, Adrien Quatennens dans les derniers débats, et qu'on voit même Le Figaro a noté à quel point il avait été brillant dans ce débat. Je pense qu'on peut difficilement accuser Le Figaro d'être complaisant envers Adrien Quatennens. Je crois qu'il y a différentes figures qui émergent et que le mouvement est divers. Et non,
donc
moi,
les
j'ai
emportements
pas vu,
de Jean-Luc Mélenchon au moment de la perquisition chez lui.
Ça, c'est autre chose. Vous parlez de gouvernance du mouvement, je pense que j'ai
répondu. Mais c'est lui aussi.
Et oui. Ensuite, sur les perquisitions, on peut en parler. Je crois qu'il faut se mettre à la place d'une personne et de personnes qui, du jour au lendemain, voient débarquer tout l'arsenal presque antiterroriste pour une affaire qui n'en est pas une. Et je crois qu'on peut comprendre une réaction qui est humaine. Moi, j'aurais sans doute réagi différemment, on aurait tous réagi différemment. Je crois que ça ne fait pas la politique, cet épisode-là, et qu'il faut regarder à la fois la manière dont est gouverné le mouvement, qui est assez unique dans sa forme, et surtout le projet que l'on porte.
Et vous qui venez du monde associatif, vous n'êtes pas un peu interloqué quand même par le fonctionnement de ce mouvement ? Alors vous dites que c'est riche, mais c'est aussi riche de psychodrames. On a l'impression qu'il y en a un par semaine. Comment vous avez à vous appréhender ça ?
Non, moi je ne trouve pas qu'il y ait tant de psychodrames que cela. C'est un mouvement qui, vous savez, il y a 500 000 personnes qui soutiennent la France Insoumise sur la plateforme. Donc, vous avez des gens d'horizons différents.
Qui claquent les portes.
Qui claquent les portes, vous savez, des égos de personnes qui ne sont pas suffisamment haut placées sur une liste. Malheureusement, vous en avez dans tous les mouvements politiques. Et voilà, je le déplore. Mais ça reste une minorité de personnes. Écoutez la majorité des militants de la France.
Vous dites que Jean-Luc Mélenchon ne se mêle pas de votre campagne, mais il fait de la politique nationale. Dans une interview à Libération mercredi, il appelle à une fédération populaire pour rassembler la gauche. Est-ce que c'était le bon moment pour lancer cet appel ? Est-ce que ça ne vient pas percuter justement votre calendrier,
Alors,
votre
deux
agenda
choses. Le fait qu'il fasse de la politique, c'est tout à fait normal. Il est quand même président du groupe de la France
Cette semaine,
Insoumise,
à un mois des élections européennes, est-ce que
et
c'est
sur
le bon
la fédération
calendrier
populaire,
pour...
Je me permets qu'il n'est même pas président. Mais bon,
et
on
je me
permets
président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée
nationale. Pardonnez-moi.
Il n'est en effet pas président de la France Insoumise, il n'y a pas de président. Et ensuite, pour répondre à votre question, vous avez mal lu, si je peux me permettre. Il n'appelle pas à une fédération populaire de la gauche, il appelle à une fédération populaire, point. Et donc, ce n'est pas une fédération des vieux appareils de gauche qui, par ailleurs,
autour
pèse
d'un
plus
programme,
grand-chose.
Plutôt ses idées.
Et c'est surtout une fédération du peuple en mouvement. Ces personnels hospitaliers qui sont mobilisés dans les hôpitaux, de ces gilets jaunes.
Est-ce que c'est bienvenu maintenant dans ce calendrier ?
Mais je pense que c'est.
Alors
c'est
qu'il pas, faut parler c'est, d'Europe.
C'est pas une proposition.
Là, on
c'est
parle
pas une proposition.
De petite politique.
Ah non, c'est. Ah non, justement. C'est là où j'insiste. C'est pas de la politique politicienne où on va faire des accords d'appareil. C'est comment tous ensemble, on se donne les moyens de
mais
peser dans
pas
la société.
À partir unis dans ce scrutin
mais
européen.
C'est parce
et vous
que
voudriez
vous pensez
faire
la politique des années 80 ou des années 90 ou des années 2000, une politique qui est faite des accords d'appareil. Là, ce dont on parle, c'est comment on met le peuple en mouvement. Finalement, des gens qui sont mobilisés, je vous le disais, à plein d'horizons différents, dans les hôpitaux, dans les écoles,
pas que, non, parce
jeunes,
qu'il dit quand même, ceux qui veulent nous rejoindre dans les appareils doivent clarifier leur position.
Ils sont bienvenus, l'ensemble. Mais la question, c'est pas comment le peuple se met au service des appareils politiques, mais l'inverse, comment les appareils politiques se mettent au service du peuple. Et vous savez, on a été beaucoup décriés pour notre présence dans les mobilisations sociales. Mais je crois que c'est une des grandes forces de la France insoumise. Et vous parliez des européennes. C'est ce qu'on a essayé de faire pour ces élections européennes, d'ailleurs, où il y a moi qui suis tête de liste, qui n'avais jamais fait de politique avant, qui vient du milieu associatif. Vous avez des personnes issues du milieu syndical, je vous parlais de Marina Mesure. On a des personnes qui viennent même d'autres partis politiques, comme Sergio Coronado, qui vient d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Morel, qui vient du PS, mais qui se rassemblent tous derrière un programme. Et je crois que ça doit être le cœur de notre fédération populaire, justement.
Alors justement, pour ne pas faire de la politique comme dans les années 90 ou 2000, vous, comme futur élu, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Ce matin, dans le journal du dimanche encore, il y a une tribune de Daniel Cohn-Bendit et de Jean-Paul Besset qui disent on pourrait au Parlement européen se réunir autour d'un pôle qui rassemble toutes les parties prenantes de l'impératif écologique. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit où vous dites oui, il y aura peut-être des majorités d'idées à un moment, après les élections, ben, pour faire avancer coûte que coûte cet impératif écologique ?
Bien sûr qu'on peut le faire à plusieurs, pousser l'impératif écologique. Vous savez, nous sommes des gens constructifs. Donc nous votons toujours les propositions qui vont dans le bon sens. Et c'est ce que font les députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut être cohérent. S'il faut s'unir avec les socialistes, qui, au niveau européen, sont en faveur des traités de libre-échange, qui, au niveau européen, sont en faveur de la privatisation des barrages hydroéléctriques, du rail...
Non, mais si vous mettez tout de suite des conditions, forcément, vous ne voterez jamais avec eux.
Non, mais là, vous parlez... C'est parce qu'il faut sortir de la logique politicienne. Ce n'est pas des conditions, on ne veut pas parler avec vous. C'est des conditions si, justement, on veut mettre la transition écologique au cœur de ce programme, eh bien, ce n'est pas compatible avec les traités de libre-échange. À cause du libre-échange, le trafic de marchandises a été multiplié par 3 ces 25 dernières années sur les cargos. Donc, vous voyez, on ne peut pas... c'est pas une question de « on vous aime pas » ou « votre tête me revient pas ». C'est vraiment, on ne peut pas, ensemble...
Non, mais ça peut être une question d'efficacité, à un moment donné,
mais,
de faire avancer
mais,
quelques
du coup,
quelques
qu'est-ce
mesures.
Qu'on va faire ? Mais pensons de manière concrète. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Si c'est aller avec eux pour voter les traités de libre-échange, eh bien, moi, je dis que l'impératif écologique nous impose de refuser l'ensemble des traités de libre-échange. Et tant qu'ils ne changeront pas d'avis sur cette question, ben, on ne votera pas ensemble.
Mais du coup,
peut-être qu'ils vont changer d'avis.
Du coup, vous risquez d'être très seul. Et ceux qui ont le vent en poupe en ce moment, c'est plutôt les populistes de droite. Alors du coup, comment vous allez travailler ? Est-ce que vous pourrez avoir des votes communs sur certains projets sociaux ? C'est ce qu'a envisagé Marine Le Pen elle-même. Ou est-ce que ça, vous l'excluez complètement ?
Alors déjà, nous ne sommes pas si seuls que cela. On parlait tout à l'heure de notre alliance européenne avec, je le redis, Podemos
en Espagne,
etc. En difficulté, ils sont plutôt remontés dans les sondages. Mais on va voir ce que donnent les élections législatives aujourd'hui.
Il semblerait que Vox soit beaucoup plus remonté dans les sondages, qui est donc
mais
le parti d'extrême droite
en
Espagne.
Il y a
en
effet un péril avec l'extrême droite. Mais si combattre l'extrême droite, c'est revenir aux recettes libérales pour se dire c'est finalement le libéralisme ou l'extrême droite. Finalement, cette forme de duel que nous présente actuellement La République En Marche, où on voit qu'en vrai, il y a plus de convergence entre eux que...
Sur des sujets sociaux, vous avez parfois des convergences.
Lesquelles
avec,
Lesquelles
est-ce que bah, le sur les travailleurs détachés, est-ce que sur les traités de libre-échange.
Est-ce que le Rassemblement National est en faveur de la hausse du SMIC ? Non, nous sommes en
faveur. Les traités de libre-échange, c'est votre sujet prioritaire.
Sur les traités de libre-échange, sur le TAFTA, Marine Le Pen était absente de la commission au moment où il a fallu voter contre le TAFTA.
Donc pas de vote avec Marine
Le Pen. Mais je vous le dis concrètement, je vous donne des exemples. À chaque fois, je vous donne des exemples précis pour montrer qu'il n'y a pas de convergence. En revanche, là où il y a convergence, c'est quand on regarde les politiques menées en matière migratoire entre le Rassemblement National et La République En Marche, il y a convergence. Il y a même convergence, sans faire exprès, de la tête de liste de La République En Marche qui s'est retrouvée à 20 ans sur une liste d'extrême droite. Donc, vous voyez, je pense que ce qu'on veut essayer de montrer...
C'était une connerie, dit-elle. Ça peut arriver
ouais, enfin,
à
moi,
tout le monde.
Moi, à 20 ans, j'étais à l'UNEF et je défendais déjà la hausse des frais d'inscription. Enfin, je m'opposais plutôt déjà à la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers, par exemple. Donc, certes, c'était une connerie, mais elle est étudiante à Sciences Po. Je crois qu'elle ne pouvait pas ignorer, malheureusement, qu'elle était sur une liste d'extrême droite.
Manon Brie, tête de liste pour la France insoumise pour les européennes du 26 mai prochain et l'invité du grand rendez-vous. On continue de parler mobilisation citoyenne. Restez avec nous.
Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet.
Damien Fleureau. Hélène Jouan.
Manon Aubry, tête de liste pour la France Insoumise et l'invité du grand rendez-vous. On parle de ce qui s'est passé une nouvelle fois ce week-end dans les rues de Paris et de France avec Damien Fleureau.
Oui, 24e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes, une mobilisation de faible ampleur. La France Insoumise a beaucoup soutenu ce mouvement. On a vu encore Jean-Luc Mélenchon hier dans un cortège avec d'autres leaders de la gauche radicale. Est-ce que vous reconnaissez toutefois que le mouvement s'essouffle largement, peut-être parce qu'Emmanuel Macron a répondu à une large partie des revendications.
Ou peut-être parce que vous avez en face de vous des femmes et des hommes qui sont fatigués d'être mobilisés. Enfin, mettez-vous à la place de personnes qui sont mobilisées pendant 6 mois dans les rues. C'est fatigant. Et donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait moins de gens. Mais la question qui se pose, c'est aujourd'hui, avec ou sans Gilets jaunes, les revendications qui ont été portées par le mouvement sont largement partagées par les Français. Que ce soit le référendum d'initiative citoyenne, le rétablissement de l'ISF, davantage de justice fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, davantage de services publics.
Vous estimez, pardonnez-moi, que par exemple, justement, sur la démocratie, sur l'amélioration de la démocratie, vous estimez que Emmanuel Macron n'a pas fait assez d'avancées. Il a parlé d'un référendum d'initiative citoyenne local, il a parlé d'un assouplissement du référendum d'initiative partagée, il a parlé d'une dose de proportionnelle visiblement un petit peu en hausse par rapport à ce qu'il avait prévu dans sa réforme constitutionnelle. Ça ne suffit pas.
C'était simple, il fallait faire un référendum d'initiative citoyenne. Parce que ce référendum d'initiative partagée, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un droit pour les citoyens d'interpeller les députés. Mais si vous interpellez...
C'est déjà beaucoup.
Si, oui, mais si vous interpellez... Prenons un cas concret. Vous voulez...
La privatisation des aéroports de Paris, puisque justement, vous êtes dedans.
Et donc, vous êtes contre la privatisation, il y a la mobilisation, on a réussi à atteindre le nombre de citoyens. Ils interpellent, du coup, l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Exactement la même chose qu'au premier vote. Puisqu'à l'Assemblée nationale, vous avez des députés qui votent en cadence, tous ensemble, pour la privatisation d'Engie ou d'Aéroports de Paris ou de l'ensemble des grandes entreprises.
Et donc ça ne peut pas retourner, selon vous, au Parlement. Autrement, ça ne change rien.
Le référendum d'initiative citoyenne, quel est le principe ? C'est une irruption des citoyens dans la démocratie. La démocratie participative, c'est à la fin le peuple qui tranche. Et donc, je me demande pourquoi Emmanuel Macron a peur du peuple. Moi, je veux lui dire, n'ayez pas peur du peuple. Si vous avez confiance dans la souveraineté populaire, alors même s'il y a 1 million, en fonction du seuil, de personnes qui demandent ce référendum, si à la fin le vote est oui ou non, bah, il faut s'y tenir. Et c'est le peuple qui tranche. Et donc, je regrette véritablement qu'aujourd'hui, il n'y ait aucune avancée sérieuse en matière démocratique annoncée par Emmanuel Macron.
C'est
pour la fête du 1er mai, la fête du travail, il y a des appels à un mercredi noir et jaune, des gilets jaunes et des black blocs qui appellent à transformer Paris en capitale de l'émeute. Est-ce que vous serez, malgré les risques de provocation, dans des cortèges aux côtés des travailleurs ?
Bien sûr, je serai présente, ainsi que l'ensemble des membres de la France Insoumise, dans les cortèges du 1er mai, probablement à Marseille ou à Paris, mais je serai présente dans les cortèges. Mais ce qui compte pour cette mobilisation, c'est de ne pas céder face à la panique. Vous savez, on n'a jamais eu aucune ambiguïté et notre position est très claire. La violence n'est jamais la solution.
Et comment est-ce qu'on évite ?
Mais le 1er mai est une fête historique. Le 1er mai est une fête historique de défense des droits des travailleurs et je pense qu'elle doit le rester.
Vous dites Marseille ou Paris, ce sera en fonction des risques justement de
casse ? Non, pas du tout. Pas du tout.
Du coup, vous devez savoir.
Non, pas du tout. Ça dépend de notre organisation en interne, si vous voulez tout savoir. Mais il y aura des députés et des membres de la France Insoumise présents à Paris, à Marseille, à Lille et dans l'ensemble des circonscriptions, notamment où les députés sont présents. Comment on évite les casseurs ? On évite d'abord par le travail des DRG, des renseignements généraux, parce que c'est leur travail d'essayer d'anticiper.
Et puis, on évite aussi sur le terrain, en arrêtant dès que des premiers faits sont commis. On a vu, il y a eu des débats, notamment même des syndicats de policiers qui se sont élevés sur certaines démobilisations qui ont été émaillées d'un peu plus de violence. Eh bien, on a vu que pour certaines mobilisations, les policiers avaient tardé à interpeller les violents. Mais je crois qu'il faut être ferme vis-à-vis de la violence. Mais il ne faut pas résumer une mobilisation sociale à des faits de violence d'une minorité de personnes qui cherchent à souiller le mouvement, qui cherchent à souiller le mouvement.
C'est quoi votre analyse du mouvement social aujourd'hui ? Pendant un an et demi, la France insoumise a essayé d'investir la rue en vain contre les réformes d'Emmanuel Macron, puis il y a eu les gilets jaunes, et là aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce que vous dites c'est le moment de recommencer à essayer de créer une
convergence
peut-être entre les syndicats et les gilets jaunes ? Et est-ce que vous allez repartir dans une conquête de la rue, si on peut dire ?
Vous savez, on a toujours été dans la rue. Pas parce que
ça a pas marché,
on aime bien aller marcher sous la pluie ou sous le soleil, mais parce que véritablement les revendications qui sont portées font écho à nos propositions et aux projets de transformation de la société que l'on porte. Je vous évoquais tout à l'heure la question des hôpitaux. On a quand même une mobilisation un peu inédite qui est en train de se dérouler en ce moment dans les hôpitaux et en particulier dans les urgences où les médecins doivent choisir entre deux
mais
urgences.
Les gilets jaunes ont fait un mouvement de bascule, ont changé quelque chose qui vous permette aujourd'hui de vous dire en stratégie, on vise ça.
Faudra voir avec le recul pour être honnête, mais parce qu'on est en train de le vivre, mais je crois que les gilets jaunes ont apporté beaucoup dans la façon de concevoir les mobilisations sociales. Et je crois qu'ils ont pas mal déstabilisé aussi les médias, le fait qu'il n'y ait pas de leader, que ce soit un peu auto-organisé, avec des formes de mobilisation un petit peu
pas de leader,
inédites.
Ça marche pas pour vous, ça.
Mais non, pour le coup, on est aussi, on en parlait tout à l'heure, un mouvement relativement horizontal. Donc non, et on a toujours été respectueux de leur forme de mobilisation. On n'a jamais répondu à la place des gilets jaunes. On a toujours dit qu'on les soutenait parce que ça faisait écho à notre vision de la société et que l'ensemble ou beaucoup de membres de la France insoumise sont gilets jaunes, mais ça ne fait pas la France insoumise le porte-parole des gilets jaunes. On a toujours été extrêmement vigilants à cela.
Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon a dit sa fascination pour Éric Drouet, un des leaders des gilets jaunes, comme si finalement Éric Drouet et les autres arrivaient à faire ce que lui tente de faire depuis des mois, voire des années, sans y parvenir.
Ah, je sais qu'on a beaucoup commenté ce mot. C'est, je crois, une fascination pour une force de mobilisation sociale, une mobilisation, une forme de peuple en mouvement qui porte des revendications qui sont fortes. C'est assez. Enfin, si on prend un peu de recul quand même, quoi qu'on pense des gilets jaunes, c'est assez inédit. Une mobilisation qui dure 6 mois. Tous les samedis.
Mais qui aujourd'hui vraiment s'essouffle encore une fois. C'est-à-dire, il y a eu le 17 novembre une très forte mobilisation et ça a changé les choses.
Mais je vous le redis, regardez toutes les enquêtes d'opinion, les revendications qui sont portées
On peut pas croire une fois les sondages et une fois les croire.
Hein. Mais non, je vous l'ai dit, enfin, quand vous avez plus de 3/4 des gens dans les enquêtes d'opinion qui sont en faveur du rétablissement de l'ISF, du RIC, de davantage de justice fiscale, de hausse du SMIC, je crois que c'est très largement partagé.
En tout cas,
par
dans
les Français.
Mesures, individuellement, les mesures annoncées par Emmanuel Macron, les sondages étaient plutôt positifs aussi.
Ah oui, 6 Français sur 10 et 7 sur 10 qui sont soit déçus ou qui désapprouvent les
quand
annonces.
On comprend individuellement, bah,
individuellement
les propositions,
oui.
Fermer les classes, le moratoire, la réindexation.
Attendez, c'est facile de dire, est-ce que si on fait un sondage demain, est-ce que vous êtes pour la paix dans le monde ? Évidemment, tout le monde va dire oui. J'imagine, on est tous les quatre pour la paix dans le monde.
Donc, sur
la question, c'est comment on fait concrètement sur les classes. Par exemple, 24 élèves dans les classes maximum, dans les classes en dessous du CE1. Si on ne met pas plus de fonctionnaires, bah, concrètement, ça veut dire qu'à partir du CE2, ils vont se retrouver à 40 par classe. Donc oui, moi, sur le principe, je suis pour 24 élèves dans les classes de CE1 et avant, CPSE1. Mais si on ne met pas les moyens qui vont avec, forcément, il y a un manque de cohérence. Eh bien, je crois que c'est une technique qui est utilisée par le gouvernement.
J'ai une dernière question pour vous, Manon Aubry. Il paraît que depuis votre entrée en campagne, vous tenez votre propre carnet de bord de cette campagne.
Vous êtes bien informée.
Et vous notez même, paraît-il, ce qui vous étonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, nous livrer quelques sujets d'étonnement que vous avez eus pendant cette campagne ?
Il y en a plein, il est déjà très rempli. Mais il y a plein de choses qui m'étonnent. Dans les choses qui m'étonnent, il y a déjà pour être honnête, la pauvreté du débat politique, le fait que, et c'était assez peu le cas aujourd'hui, je m'en félicite, mais que, en général, sur les plateaux télé ou radio sur lesquels je vais, on pose surtout des questions de politique politicienne, ou sur Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même une des questions favorites des journalistes, et assez peu sur le projet politique que nous portons. Je m'étonne aussi.
Donc
de
vous découvrez le monde médiatique, vous qui l'avez quand même arpenté aussi quand vous étiez porte-parole d'Oxfam.
Mais vous savez, justement, c'est assez intéressant parce que les journalistes qui m'interrogeaient, c'était des journalistes plutôt économiques. Ils m'interrogeaient sur les sujets spécifiques, sur la liste de paradis fiscaux, etc. Donc je répondais juste sur le fond. Et là, je découvre cet univers de la politique politicienne et qui est extrêmement frustrante, pour être honnête, parce qu'en général, c'est pas pour ça qu'on fait de la politique. Donc ça fait partie de mes sources d'étonnement. C'est une chose de se douter, c'est une autre chose de le vivre. Je découvre aussi la violence du monde politique, une forme de misogynie aussi.
Vous l'avez vécu, ça, sur ces quelques semaines de campagne ?
Oui, bien sûr. Je le
déplore. De la part de qui ? De vos adversaires politiques ?
Oui, quand on voit certains arguments qui sont utilisés et qui sont extrêmement caricaturaux, je veux dire, Yannick Jadot qui utilise l'argument de dire « Ah bah oui, ça va être comme en URSS, la France Insoumise, ils arrivent au pouvoir. » Enfin, franchement, est-ce qu'on en est là dans le débat politique ? Moi,
c'est pas de la misogynie, ça, c'est un raccourci.
Non, ça, c'est pas la misogynie. Ah non, pardon, j'étais passée sur un exemple de choses qui sont vraiment... qui rabougrissent le débat politique. Et moi, j'ai envie de débattre avec Yannick Jadot sur pourquoi il pense que l'écologie est compatible avec l'économie de marché. Voilà un beau débat. Plutôt qu'un nous caricaturer de la sorte. Donc ça fait partie des choses qui ne cessent de m'étonner, mais j'espère que je garderai mon étonnement jusqu'au bout. Et que du coup, je pourrais me servir de cet étonnement comme une force pour essayer aussi de ramener le débat politique sur du concret pour les gens, pour ce qu'on vit et comment on peut apporter des solutions à ça.
Merci Manon Aubry d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous, une émission en partenariat avec CNews et Les Échos. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau. Excellente semaine à tous.
Merci Hélène Jouan, en effet, dimanche prochain, dès 10h pour un nouveau grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos.